Bonjour Adrien Delgrange.
Bonjour Nathanaël et bonjour à tous.
La revue de presse française, la plupart des journaux titrent ce matin, Adrien, sur la mort du général iranien tué hier lors d'une frappe américaine.
Les risques d'un embrasement pour le Figaro, avec en une un drapeau américain déchiré dans la rue par des manifestants en Iran. La confrontation, titre Libération, avec une photomontage qui montre Donald Trump, le regard inquisiteur face au guide suprême, pensif, la main sur le menton. Cette question du Figaro, on aimerait être sûr que Donald Trump mesure la complexité de la partie d'échecs dans laquelle il s'est engagé. Et une affirmation pour Libération, le meurtre du général a pour effet d'unir dans une même colère opposant et soutien iranien au régime de Téhéran, créant une sorte d'union nationale. La Croix, elle, brosse le portrait de ce petit homme en taille, surnommé le commandant de l'ombre, en tant que chef de la force Al-Quds et des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime de Téhéran. À 62 ans, Qassem Soleimani dirigeait une institution vouée à l'action secrète sous toutes ses formes, armée, politique, financière, forte de 10 à 20 000 agents, selon les services de renseignement occidentaux. Il allait à la mosquée régulièrement, rapporte La Croix, mais ce n'était pas la religion qui le motivait dans son action, plutôt le nationalisme et l'amour du combat. Depuis longtemps, chaque étranger de marque en visite à Téhéran essayait de le rencontrer. C'était en quelque sorte l'homme qui murmurait à l'oreille de l'ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei qui, hier, 2 heures après le décès de Soleimani, décrète un deuil national de 3 jours et menace Nathanaël de venger sa mort.
Car c'est l'autre question ce matin, Adrien. Quelle sera la réplique iranienne?
Alors l'attaque, en tout état de cause, oblige le gouvernement iranien à une réplique spectaculaire. Note Libération, même si son infériorité militaire l'incite à éviter en principe un casus belli manifeste. L'Iran prendra son temps et choisira le terrain irakien pour répliquer, nous dit La Croix. L'Iran a le choix entre plusieurs cibles, les 8 bases militaires américaines encore présentes sur le sol irakien, mais aussi les sociétés, les écoles ou universités américaines. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont conseillé à tous leurs ressortissants de quitter l'Irak immédiatement. Ainsi va le monde, conclut Libération, quand on confie les rênes de la première puissance planétaire à un irresponsable.
Et pendant ce temps-là, à l'autre bout de la planète, l'Australie brûle.
Le salut est venu de la mer, note Le Monde. 2 navires de l'armée australienne ont été réquisitionnés pour évacuer une partie des 4000 personnes piégées par les flammes. Depuis plusieurs jours, ces familles massées en ultime recours sur la plage de Malakuta dans l'état du Victoria attendaient les pieds dans l'eau qu'on leur vienne en aide. Depuis le début de la saison, les incendies en septembre ont au moins causé la mort de 23 personnes. Les feux ont également été meurtriers pour la vie sauvage et ont détruit la quasi-totalité, notamment du parc national de Flinders Chase.
Et puis dans la presse aussi ce matin, cette attaque au couteau, c'était hier en France.
Périple meurtrier, titre Le Parisien, hier après-midi près de Paris, dans le parc des Hautes Bruyères de Villejuif. Un jeune homme, pieds nus et en djellaba, qui court un couteau à la main. Il tue un quinquagénaire et blesse grièvement son épouse avant de blesser plus légèrement une seconde femme. S'ensuit un face-à-face avec la police, voyant arriver les hommes de la BAC qui font les sommations d'usage. L'homme au couteau lève les yeux au ciel et se dirige vers eux. L'assaillant est abattu. L'enquête ne fait que commencer.
Dans l'actualité sociale, 30e jour de grève, toujours en France. Grève historique, titre L'Humanité.
Alors que la contestation contre la réforme dure depuis maintenant un mois, la rentrée sociale devrait se traduire par une montée en pression, note le journal communiste. Les appels à l'apaisement d'Emmanuel Macron lors de ses vœux n'y changeront rien. La mobilisation contre la réforme des retraites, démarrée le 5 décembre dernier, fait déjà date dans l'histoire. Elle surpasse en termes de durée le mouvement massif contre le plan Juppé de 95. Une déferlante sociale inédite depuis mai 68, signe L'Humanité.
Et plusieurs actions sont d'ailleurs prévues la semaine prochaine. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action interprofessionnelle jeudi prochain, mais aussi samedi 11 janvier. Et puis enfin, dans la presse française, Adrien, la cavale de Carlos Ghosn continue d'alimenter toutes les spéculations possibles et inimaginables 4 jours après son évasion du Japon.
Comment a-t-il fait pour quitter sa résidence Tokyo-It, surveillée jour et nuit par la police japonaise, se demande le Parisien. Deux hypothèses pour l'instant. Se serait-il dissimulé dans une grande caisse, comme par exemple l'étui d'un violoncelle? Il y aurait eu un concert chez lui quelques jours auparavant. Le stratagème d'une caisse ou d'une grande valise démenti par son épouse, Carole Ghosn, auprès de l'agence Reuters. Et si il était parti comme si de rien n'était, suggère Libération. À en croire les dernières images de vidéosurveillance, Carlos Ghosn quitte seul son domicile dimanche dernier vers midi, sans présence particulière à ses côtés. Libération qui suggère aussi, Nathanaël, une bande-son qui pourrait bien fonctionner pour illustrer les dernières images au Japon d'un homme seul qui marche dans la rue. Une bande-son chantée par Jane Birkin.
Il est parti chercher des cigarettes. En fait, il est parti. À moins peut-être qu'une camionnette tout nette me l'étoxie. Ce qui tendrait à prouver que les cigarettes vous mettent à l'agonie.
Carlos Ghosn sur cette bande son imaginée par Libération, Jane Birkin sur des paroles de Serge Gainsbourg et à la réalisation Adrien Delgrange pour la revue de presse. Merci Adrien, on vous retrouve demain. Restez avec nous dans 30 secondes, le journal Afrique.